Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous.
Isabelle, je vais là-bas, au BD.
Je trouve que la lecture, c'est bien. Ça cultive les gens et ça sert beaucoup pour le futur des personnes.
À l'heure du 35e Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, qui se déroule à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, près de Paris, jusqu'à lundi prochain, plein feu sur cette littérature qui d'ailleurs s'adresse autant aux petits qu'aux grands, sans aucune limite d'âge. Bonjour Marie Desplechin.
Bonjour.
Vous êtes l'une des fidèles de ce salon, puisque depuis quelques temps déjà, vous êtes l'autrice de nombreux livres destinés à un jeune public, tout en écrivant aussi pour un lectorat adulte. Et cette année, vous présentez votre nouvelle publication intitulée « Ne change jamais !» un texte illustré par Aude Picot qui vient de paraître aux éditions L'École des loisirs. Sous-titré « Manifeste à l'usage des citoyens en herbe », ce texte très pertinent, avec beaucoup d'espièglerie et en même temps une vraie justesse, prend à rebours les défauts de nos enfants pour en montrer finalement les vertus. Ainsi, ne pas se laver tous les jours, râler, chercher la bagarre, copier sur son voisin ou refuser de voyager, par exemple, non seulement ce n'est pas grave, c'est même normal et mieux, il faut encourager les adolescents dans ce sens, car au final, ce sont peut-être des attitudes qui sauveront le monde. Est-ce que c'est bien l'esprit de votre livre, Marie Desplechin ?
C'est exactement ça. Je vais apprendre par cœur ce que vous venez de dire pour le répéter quand on me demandera comment c'est fait. C'est tout à fait ça.
Mais comment vous êtes-vous rendu compte que finalement ce qui peut nous inquiéter, nous parents, est en fait une piste à explorer pour l'avenir de tous ?
C'est-à-dire que moi je suis sensible depuis longtemps déjà à la question de l'écologie et de l'environnement. Et c'est assez difficile d'en parler aux enfants, qui d'ailleurs se renseignent de leur côté assez bien eux-mêmes, parce que c'est très très anxiogène. C'est-à-dire que dès qu'on commence à s'intéresser, à suivre dans la presse par exemple, ou dans les médias, le suivi des rapports des scientifiques, les perspectives sont vraiment... c'est vraiment inquiétant. Comment, quand on a des enfants qui vont vers le monde qui vient, leur présenter les choses qui vont se passer, c'est terrible. Alors j'écoutais quelquefois des opérations de sensibilisation des gosses, et on leur dit « ne jette pas tes bouteilles en plastique, fais très attention à ça ». C'est-à-dire que les adultes sont encore dans le registre de l'injonction en leur donnant des ordres. Et puis, un jour, en voyant une gamine de 12 ans qui était chez moi à ce moment-là, se précipiter sur moi alors que je jetais une boîte et un sachet après à la poubelle, elle me dit « non, jette pas ça, je vais le garder, je vais en faire quelque chose ». Et je me suis dit « ah ouais, mais bon sang, c'est exactement ça, c'est de l'économie circulaire, on ne va pas le jeter, on va le garder, on va le transformer et on va le remettre dans le circuit ». Donc, à ce qu'elle me disait, je me rendais compte que c'était pertinent et que j'avais toute une documentation qui pouvait s'appliquer à ce qu'elle me disait. Et après, en répétant le phénomène et en l'observant, je me suis rendu compte que ça marchait pour une quantité de réactions des enfants. Et ça me semble... C'est normal parce qu'ils sont pas encore rentrés dans les processus de socialisation qu'on a quand on devient adulte, où on est dans le « faut être raisonnable, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pas si simple, mais qu'est-ce qui va se passer si ?» Et en fait, à force de petits freins qu'on se met tout le temps, on en perd de vue les objectifs prioritaires. Et l'objectif prioritaire, c'est changer maintenant, vite. Et ça, un gosse, il est pas freiné en fait, il peut y aller.
Est-ce que c'est aussi l'exemple de la jeune Suédoise Greta Thunberg, que vous citez d'ailleurs en exergue de votre livre, qui à 15 ans a décidé d'aller manifester devant les institutions de son pays au lieu d'aller en cours et qui aujourd'hui est devenue un peu la porte-parole de cette nouvelle génération, voire tout un mouvement humaniste qui vous a convaincu que notre jeunesse avait un potentiel extraordinaire ?
Greta Thunberg, elle a cet âge-là. Elle a l'âge de ces héros adolescents qui sont dans de la pensée, en fait, et dans la capacité de réagir. Et dû aussi à leur capacité adolescente, dû à leur capacité d'engagement, dû à la colère. Si elle était pas si en colère, Greta Thunberg, elle ne ferait pas Greta Thunberg. Donc, on peut s'appuyer dessus. Je pense qu'il faut s'appuyer dessus.
On va l'écouter, tiens.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean.
Tout cela ne va pas. Je ne devrais pas être ici, mais à l'école, de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez nous demander, à nous les jeunes, de l'espoir. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance, avec vos paroles vides de sens. Et encore, je fais partie des chanceux. Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction de masse, et ce dont vous parlez, c'est d'argent, du conte de fées d'une croissance éternelle. Comment osez-vous?
Greta Thunberg, en colère, extrêmement sensible, particulièrement touchante évidemment, qui est donc en exergue de votre livre « Marie Desplechin ne change jamais !» point d'exclamation. Vous faites l'éloge de cette jeune génération dont vous dites qu'elle est dotée d'un cerveau rapide, d'une grande capacité d'empathie et qu'elle est particulièrement sensible à l'injustice. Et nous, on n'était pas comme ça aussi à leur âge ?
Mais bien sûr que si. Et certains d'entre nous le sont restés. Et ben, c'est-à-dire qu'on est rentré dans le moule. Enfin, moi, je le vois très bien sur ma propre vie. Hein. Je vois très bien le moment où on me dit, faut que tu trouves un travail, ça me semble super dur. Faut que tu gagnes ta vie, je vois pas comment je vais faire. Il faut que tu rentres dans des rapports de hiérarchie où les gens vont te choisir, vont. Et après, voilà, on accepte. Et à un moment, on a oublié ce à quoi on croyait, ce qu'on voulait. On n'a pas complètement oublié, mais on a fait des accommodements. Et d'accommodement en accommodement, moi, mon existence, elle aura été celle, entre 20 et 60 ans, des 40 ans qui, en fait, ont plombé complètement la machine. C'est-à-dire des 40 ans du néolibéralisme, de la surconsommation, du développement effréné de tout ce qui est jeté, des transports aériens très peu chers, enfin, d'un gâchis absolument effroyable. Et je me dis, punaise, en fait, ma vie, c'était ça. Et si je me revois à 15 ans, j'ai des comptes à me rendre.
Alors en tout cas, vous vous adressez donc à ces jeunes gens qui ont 15 ans et vous développez en 20 chapitres ces soi-disant défauts avec à chaque fois une scène racontée par une ado, un texte qui explique le concept et un zoom qui cite des exemples concrets dans la réalité de ce retournement du concept. Alors peut-être pour que ce soit parfaitement clair pour notre auditoire, est-ce que vous voulez bien, Marie Desplechin, lire un extrait où on entend justement la voix de cette jeune fille qui s'exprime sur un point particulier ?
Alors, on peut prendre par exemple les courses. Alors, le chapitre s'intitule « Encore les courses » et évoque l'enthousiasme d'un adolescent que vous voulez traîner avec vous.
Le samedi après-midi,
voilà,
en général,
exactement.
Dans un supermarché pour remplir le caddie.
C'est la dernière fois qu'on me traîne vivante dans un hyper. Plus jamais. J'étais tranquillement occupée à réfléchir dans ma chambre, quand soudain, pour des raisons inconnues de moi, il est devenu urgentissime de faire des courses en famille. C'est-à-dire de monter dans une voiture, de tourner sur des ronds-points, de s'enterrer dans un sous-sol et de ressortir finalement dans un hangar éclairé à l'électricité. À nous le chariot géant. Il faudra un jour que quelqu'un explique à mes parents qu'ils ne sont pas obligés de le remplir. Je crois que ça leur a échappé. Bon, bref, on se promène. Rayon pesticides, rayon additifs et nanoparticules, rayon emballage plastique et polymère, rayon parabène. On marche depuis des heures et j'ai mal aux pieds. Mon couple parental chipote devant les étagères. C'est interminable. Il y en a sur des kilomètres. Je me demande qui j'ai envie de frapper en premier, mon père ou ma mère. En même temps, je suis triste de voir qu'ils n'ont vraiment rien à faire de leur vie. S'ils avaient un truc intéressant à faire, un seul, ils ne passeraient pas des heures à se gratter la tête devant des paquets de nouilles. Personnellement, j'avais pas mal de projets ambitieux pour la journée et maintenant, j'ai juste envie de mourir ou de vomir. C'est bizarre cette odeur qui traîne dans les hyper. C'est une odeur spéciale, comme si des choses organiques avaient pourri très longtemps dans une cave. Quand j'étais petite, j'avais une ville en jouet. Il y avait des petites rues avec des petites maisons, une petite boulangerie, une petite boucherie, une petite épicerie. Pas de zone commerciale, pas besoin d'aller à l'autre bout de la chambre pour faire ses courses. Ce serait plus malin de faire pareil, des magasins à côté des maisons, plutôt que de pourrir sa journée à se traîner dans des hangars. Mais on n'y est pas, je le dis. Le rêve de mes parents, c'est de remplir leur chariot géant sur Internet et de se faire livrer par un pauvre camion. En attendant, ils s'amusent à la caisse automatique. C'est pas moi qui ferai gratuitement le boulot de la caissière. J'ai passé l'âge de jouer avec un pistolet qui scanne et je rangerai pas les courses non plus. Quand je pense à ce que je vais trouver ce soir dans la poubelle, j'ai le vertige.
Merci beaucoup Marie Desplechin de nous avoir lu cet extrait où on entend aussi votre humour, parce que même si on parle de sujets très graves, vous avez toujours ce ton un peu décalé, un peu caustique. Et donc derrière cette scène racontée par cette jeune fille, vous avez deux pages où vous développez le thème de acheter moins et mieux. Parce que effectivement, là, on est en train d'entrer dans un cercle absolument vicieux où on achète trop, on achète mal, on jette, et en fait, on fait dépérir non seulement les petits commerçants, mais en plus, ça ne sert à rien. Et derrière, le zoom dont je parlais, où là, vous donnez vraiment des exemples concrets. Ici, vous racontez que il existe une association intitulée Zero Waste, zéro déchet en français, qui a lancé un grand défi en 2018, ne rien acheter de neuf pendant un an. 15 000 Français l'ont relevé et pour l'année suivante, donc 2019, on espère 100 000 participants. Donc à chaque fois, pour vous, c'était important aussi de donner ces exemples concrets qui existent déjà et qui peuvent peut-être apporter à votre jeune public des pistes de réflexion ou en tout cas une vraie connaissance.
Bah, c'est-à-dire que si on leur dit que rien ne se fait et qu'on ne donne pas d'exemple, c'est très plombant. C'est-à-dire on leur dit voilà, c'est calamiteux et on les laisse comme ça dans le vide. Non, c'est pas vrai. Il y a un tas de gens qui inventent des solutions, des petites, des moyennes, des grandes, et faut leur donner des exemples. Après, ils peuvent trouver un tas d'autres exemples même à partir du moment où ils s'intéressent. Mais ce qui est important, c'est qu'ils se sentent actifs. Le seul moyen de pas tomber dans quelque chose de complètement de dépressif, c'est c'est un de réfléchir et deux d'agir.
Et puis à chaque fin de chapitre, donc la morale ne change jamais. Des nouvelles baskets, le dernier portable, des bonbons qui pétillent dans leur sachet de fraîcheur. C'est dingue tout ce que tu peux choisir de ne pas désirer. En plus, tu prends le pouvoir sur l'économie mondiale. Tout ça sans sortir de ta chambre, trop de puissance. Elle est pas belle, la décroissance. Donc il y a vraiment aussi presque un geste politique auquel vous invitez vos lecteurs.
Évidemment, c'est politique. Parce qu'on peut leur dire, on peut leur donner des conseils en disant ne gaspille pas l'eau, par exemple, d'une certaine, parce que si, parce que ça. On peut leur donner des conseils pratiques à leur échelle. Après, je pense que leur dire que ça suffit, ce serait se moquer d'eux. Parce que, évidemment, qu'il y a des gens qui profitent de ce système et que il y a une espèce d'avidité chez certains d'entre nous qui fait que ça dérègle le système et qu'il est très difficile de revenir en arrière. Donc, et puis quand on voit, je sais pas, moi, je pense à des, président du Brésil, au président des États-Unis. Faut se rendre compte qu'il y a des militants écologistes qui sont assassinés encore dernièrement en Amazonie. C'est-à-dire qu'en face, il y a des vrais méchants. Et ça, c'est politique. C'est comment on vit ensemble, puisqu'en fait, on est une seule population sur cette même planète. Et ce que fait l'un à un bout de cette planète, même si elle est ronde, impacte sur le devenir de l'autre. Donc ça, il faut qu'ils le comprennent, parce que sinon, encore une fois, c'est se moquer d'eux.
Et c'est ainsi donc que sont abordées ici les questions donc du partage, de l'entraide, de la pollution, de l'industrie du vêtement, de l'eau douce qui pourrait bientôt manquer, des aliments surtransformés, du gâchis alimentaire, de la surconsommation, de la pollution des transports, du recyclage, de la place des animaux et des arbres dans nos sociétés. Bref, c'est presque un manuel de survie aussi que vous proposez ici. En tout cas, une reconsidération totale de nos modes de vie.
Je dirais peut-être moins survie que vie. Parce que survie, il y a un côté qui est assez violent dedans. Mais effectivement, de vie, oui. Et on se rend compte, en parcourant les manières de se comporter des enfants et des adolescents, eh ben, on fait un peu l'inventaire de toutes nos manières de consommer, d'impacter notre environnement et de comment on peut faire mieux et pour le mieux. Donc, oui, c'est sûr, on fait le tour. Mais c'est venu très naturellement hein, dans l'écriture et en réfléchissant. Hein. En me mettant dans la peau d'un môme, c'est comme si ça allait de soi, ça s'entraînait. En fait, c'est une vieille idée, c'est tout est lié. Donc commencez à tirer le fil, vous allez voir.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Marie Desplechin qui publie « Ne change jamais !» point d'exclamation aux éditions L'École des loisirs. Un manifeste à l'usage des citoyens en herbe avec les très jolis dessins d'Aude Picot. Un texte, on l'a dit, qui encourage les enfants à en effet garder des attitudes qui pourtant pour les parents sont contestables. C'est donc un livre qui prend à rebrousse-poil une certaine éducation, un peu rigide, en tout cas beaucoup basée sur les ordres. Et ainsi, votre narratrice en fait un inventaire de ces ordres qu'elle reçoit au quotidien. Dépêche-toi, fais tes devoirs, range ta chambre, nettoie cette salle de bain, mets un pull propre, débarrasse la table, rentre à 7h. Et en classe, c'est pareil, levez-vous, assis, sortez vos classeurs, rendez vos copies, taisez-vous, arrêtez de glousser, dehors. Je devrais compter le nombre d'ordres que je reçois dans une journée, c'est complètement fou. Et le plus fou, c'est que je ne dis rien. Et elle conclut en disant que, à force d'y avoir trop d'ordres, eh bien, effectivement, il y a un certain nombre d'enfants qui sont débordés par cet abus d'ordre. Ça veut dire que on se trompe beaucoup quand on éduque nos enfants dans les injonctions.
Déjà, on finit toujours par se tromper à un endroit ou à un autre. Donc, tout le monde peut se rassurer là-dessus, on est tous égaux. Après, le livre, il remet pas en question la place d'un adulte. C'est-à-dire, je pense qu'on a toujours des connaissances à transmettre, des pratiques à enseigner. Je me défausse pas du tout de ma responsabilité par rapport aux enfants. Après, il est vrai que l'écologie, le désastre écologique remet en question les rapports entre générations. C'est-à-dire que maintenant, quand vous voyez un enfant, moi, quand je vois des tout petits dans la rue, je me dis, ah mince, 2040, 2050, 2060, comment il va vivre? Qu'est-ce qu'il va vivre? Comment il va affronter ce qu'il va lui falloir supporter, à la fois pour lui-même et puis pour les autres humains? Parce que peut-être qu'ici, ça se passera un peu moins pire qu'ailleurs, mais ce qui se passera ailleurs nous impactera forcément. Donc, d'une certaine manière, ça change le rapport entre les générations. C'est-à-dire, je ne peux pas être absolument sûr de moi dans l'injonction que je donne. Je ne peux pas dire que mon mode de vie est un modèle ou que le mode de vie des adultes aujourd'hui et un modèle qu'on peut transmettre tel quel à ceux qui arrivent. D'une certaine manière, il faut se montrer plus ouvert, en fait, peut-être plus coopératif. Et après, c'est sûr que pousser les enfants à être compétitifs, au-dessus des autres, gagner plus, écraser. Voilà, le principe de premier de cordée, c'est un principe qui ne va pas très bien. C'est toute la cordée qui compte, si vous voulez. Et peut-être ça, il faut, oui, effectivement, le reconsidérer et le discuter. Après, si le livre donne lieu à des discussions entre dans les familles ou entre les générations, c'est une chose qui m'enchanterait. Mais encore une fois, ça ne nous débarrasse pas des responsabilités éducatives qu'on a. On a des choses à transmettre, mais maintenant, faut réfléchir à notre responsabilité et au fait que ce sont eux qui le feront.
Mais vous avez eu des retours d'adolescents, en tout cas du public de l'âge du public que vous...
Oui, j'en ai eu quelques-uns. Mais ça m'enchante. J'ai une copine dont le fils, me dit-elle, ne se balade plus qu'avec le livre à la maison et il applique, il est en sixième. Et donc, applique. Alors, il pourchasse, effectivement, tout ce qu'on jette à la poubelle. Il surveille la nourriture. Il a décidé de s'habiller que de seconde main. C'est super courageux à des âges où l'écrasante pression sociale du groupe est une telle épreuve. Et c'est vrai, hein, les gosses, ils sont tellement... dans l'idée de se ressembler, de faire partie du groupe. Et ils sont tellement influencés par les modes de vie consuméristes et les publicités que pour se mettre à côté de ça et dire « moi, je n'achèterai pas de vêtements neufs, je vais faire à ma façon », faites une petite personne super courageuse.
Livre dont il faut dire d'ailleurs qu'il a fait l'objet d'une fabrication soignée et respectueuse de l'environnement. Nous dit votre éditeur.
Ben oui, on s'était tous mis d'accord et je m'étais dit voilà.
Être en accord, voilà, c'est pas les rajouter, paroles et les actes.
Voilà. Voilà.
Alors, c'est aussi un discours qui s'adresse à un public occidental, mais néanmoins, dans les Zooms, vous citez des exemples absolument passionnants concernant les thèmes que vous développez, et on se rend compte qu'il existe de nombreuses initiatives dans le monde, d'inventions que l'on doit à de très jeunes personnes. Par exemple, vous nous rappelez que Louis Braille a inventé le braille à 15 ans, Peter Shilvers la planche à voile à 12 ans et Becky Schroeder une feuille phosphorescente à 10 ans. Donc déjà, il y a beaucoup de talent chez nos enfants et beaucoup de débrouillardises aussi qui viennent par exemple, du continent africain. Donc, en Sierra Leone, où un jeune garçon qui a rêvé d'avoir une radio a finalement récupéré dans les poubelles du carton, du plastique, des fils de métal, et il a réussi à fabriquer une batterie, puis un générateur. Bref, aujourd'hui, il est ingénieur impliqué dans la recherche sur les énergies et le soutien aux jeunes du continent africain. Un autre exemple, au Malawi, où un jeune garçon, William Kamkwamba, a dû arrêter l'école parce que elle était trop chère. Il vivait dans un village sans électricité, donc au Malawi. Il a emprunté un livre sur la production d'électricité à la bibliothèque. À 14 ans, il a découvert le fonctionnement des éoliennes. Il a décidé d'en fabriquer une lui-même en récupérant des matériaux. On s'est moqué de lui jusqu'à ce que l'éolienne finalement fournisse assez d'électricité pour recevoir la radio. Il en a construit une deuxième et aujourd'hui, il éclaire les maisons et il permet aussi de pomper l'eau. Donc, ces exemples nous montrent à quel point il y a beaucoup d'inventivité et je me disais même que sans doute d'autres existaient et n'étaient encore même pas recensés.
C'est sûr que le continent africain, c'est extrêmement créatif. Et je pense que c'est dû aussi au mode de vie des gens. C'est-à-dire qu'il y a une pratique du recyclage, du fait que tout le monde travaille, a une activité qui s'insère dans le groupe, que les enfants sont responsabilisés dans de nombreux endroits très tôt, donc intégrés à la vie collective. Et donc, ce gosse qui fait une éolienne, ce gosse qui fait une radio en récupérant, je me dis, mais attendez, continuons, appuyons. Il y a une grande partie de la solution qui est là-bas, en fait, en termes de créativité.
Et pour la récupération de l'eau aussi, je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives.
Est-ce que d'ailleurs, il y a pas mal de militantes, surtout d'ailleurs, j'ai l'impression de femmes écologistes hein, qu'on entend de plus en plus et qui sont super intéressantes au Tchad, au Sénégal. Et alors, je parle même pas de l'Inde. Hein, en Inde, c'est la pensée, la proposition Vandana Shiva, c'est extrêmement intéressant.
Il faut dire que la situation est un peu grave là-bas. En termes de pollution, il est temps d'agir sérieusement.
Non, mais c'est dramatique. Il n'y a plus de mousson. Les paysans meurent. La pollution dans les villes est invivable. Mais en Afrique, c'est déjà arrivé aussi. Il y a la Tchad qui est rétrécie. Les gens ne peuvent plus avoir leur mode de vie pastoral ou agricole. Et donc, ça dégénère. Enfin bon, c'est énorme les impacts actuels, visibles maintenant, du changement.
Je me disais que c'était ces jeunes qui vous inspiraient, Marie Desplechin, ces jeunes qui font la différence.
C'est-à-dire que quand on lit ou quand on voit ce gamin donc qui fait sa radio, c'est enthousiasmant en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de soutenir quelqu'un de 35 ans qui crée une start-up. Mais quand on voit un gosse de 13 ans qui fait ça, on se dit mais si on s'appuie dessus dans 10 ans, voilà. Alors là, l'éducation, ça vaut le coup. C'est-à-dire, déjà là, ce qu'il fait, c'est formidable. Et puis après, si on lui ouvre et qu'on lui permet d'ouvrir le champ de la création, ça va être incroyablement utile.
C'est un vrai personnage de roman.
Un roman très, très excitant.
Comment naissent vos livres, vous d'ailleurs, Marie Desplechin? Je pense à Verte, par exemple. Je cite Verte parce que c'est un livre qui a déjà une vingtaine d'années.
Rose.
Verte.
Rose. Mais verte, c'est ridicule. Pourquoi pas kaki, tant qu'on y est?
Et rose, c'est super tarte.
Et qui continue sa vie comme dessin animé, au théâtre. Il y a eu plusieurs déclinaisons. Verte qui racontait donc l'histoire d'une petite sorcière qui voulait pas devenir sorcière, comme sa maman.
C'est une petite fille qui veut pas grandir, en fait.
Voilà. Et puis le journal d'Aurore aussi, mm-hmm, qu'on peut citer, qui est ce journal intime en trois tomes d'une jeune fille...
Qui est un peu celle de Ne change jamais, hein, qui est
un peu
fâchée sur beaucoup de choses. Les livres, ils viennent, c'est un moment, je vois quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est-à-dire que je me vois dans ma cuisine en train de ronchonner et je vois ma fille qui a 10 ans, qui est en train de grandir... Et ça donne verte, en fait. Je me dis, moi, je suis une vieille sorcière. Elle me dit, ah ouais, ma fille le sera un jour. Voilà, ne change jamais. Je vois l'autre qui me dit, ne jette pas ça. Et je me dis, ah oui, en fait, ça marche comme ça. C'est comme si à un moment, c'était un espèce de petit éclair qui vous faisait prendre conscience, enfin, littéralement voir ce qu'il en est vraiment. Et peut-être que chaque livre arrive comme ça d'une façon différente. C'est le moment où je vois le truc et puis après je peux l'écrire.
Mais comment est-ce qu'on devient autrice pour la jeunesse? Pour autant d'ailleurs que vous fassiez le distinguo entre les livres que vous écrivez pour un public adolescent ou pour un public adulte?
Oh oui, c'est pas le même public, c'est pas la même économie, ce sont des livres, mais ce sont des livres qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut, le plus beau qu'on peut, le plus pertinent qu'on peut, mais c'est pas tout à fait pareil. Pourquoi la jeunesse? Ben, il s'est trouvé que j'avais fait les deux et je me suis rendu compte que j'aimais écrire pour la jeunesse, que je me sentais bien avec les gosses, que j'adorais ça, que quand je voyais quelque chose, ça concernait souvent l'enfance. Et que pourquoi m'épuiser à continuer en adulte alors que c'était tellement gratifiant
et pourtant tellement plus dur aussi, non?
Non, c'est pas dur. Ça dépend de ce que c'est comme tout dans la vie. Hein, ce que vous savez faire n'est pas si dur.
Et depuis quelques années que vous allez au salon du livre, de la jeunesse à Montreuil, est-ce que vous avez vu le public changer? Ou est-ce que les lecteurs, quelles que soient les générations, en 2009, en 2015 ou aujourd'hui en 2019, quand ils ont 10 ans, ils ont 10 ans?
Quand ils ont 10 ans, ils ont 10 ans. Ils ont beau être vissés à leur téléphone portable et à regarder des monceaux d'idiots aussi. Et, ils ont évidemment 10 ans, les sentiments, les émotions, elles sont toujours les mêmes. Vous savez, le cerveau, pour le meilleur et pour le pire, il n'a pas tellement évolué depuis la préhistoire. Hein. Notre environnement va plus vite que notre matière grise. Donc les gosses, c'est pareil. Les peurs sont les mêmes, les désirs sont les mêmes, le besoin d'affection est le même, le désir de consensus est le même, la créativité est la même. Non, moi je trouve qu'ils bougent pas tellement. Après, il y a des endroits où les gosses sont plus malheureux, ils sont peut-être encore plus malheureux, donc du coup, on dit plus dur, mais il y a peut-être ça, mais non, mais globalement c'est les mêmes.
Et le goût de la lecture, il est le même aussi?
Bah, à partir du moment où ils y ont accès, oui. Le problème est l'accès. C'est-à-dire que maintenant, la concurrence est extrêmement forte avec les écrans. Et là, le monde adulte a beaucoup de mal à cadrer ça, à faire d'autres propositions. En fait, c'est la question de la proposition. Et un gosse qui est mis en situation d'être entendu dans ce qu'il choisit aussi, qu'on lui impose pas des choses qu'il n'arrive pas à lire, il comprend rien, c'est pas son truc, mais à qui on permet d'accéder au livre qui va lui parler à ce moment-là, qui est lisible par lui, accessible, il en éprouve un bonheur qui est comparable à rien. Ce premier livre qu'il va lire, moi j'en ai vu plein, hein, dont qui parlait du premier livre qu'ils avaient lu, c'est une fierté et c'est un enthousiasme auquel je vois pas d'équivalent. C'est vraiment rentrer dans un super pouvoir. Et c'est vrai que c'est une opération intellectuelle qui ressemble à aucune autre. En fait, vous recréez tout un monde, toute une pensée à partir de petits signes sur du papier et ça s'appuie sur vous, c'est vous qui le faites et ça vous rend heureux, ça vous augmente en fait. La littérature, voilà, c'est ça. C'est l'augmenter, vraiment, l'homme et la femme.
Et vous aussi, vous aimez lire les livres dits pour la jeunesse, Marie Desplechin. Pour preuve, vous faites partie de ce jury, le prix Vendredi, en hommage évidemment à Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier, qui s'adresse à un lectorat de 14 ans, 14-15 ans. Cette année, quel est le lauréat du prix Vendredi?
Alors, c'est un livre pour lequel on a voté à l'unanimité du jury. Donc ça, c'est quand même, comme on est un jury qui débat beaucoup, c'est quand même remarquable. Et il a été décerné à Flore Vesco, qui publie à l'École des loisirs, pour un livre qui s'appelle « L'étrange malaventure de Mirella », qui est une réécriture du conte du joueur de flûte de Hamelin, dans une langue qui se veut d'une manière assez espiègle aussi, une visitation de l'écriture du Moyen-Âge médiéval. C'est très drôle, c'est très prenant, c'est très beau. Il y a des images que j'avais jamais vues avant dans ce livre. C'est vraiment un excellent bouquin. Donc on était tout contents de cette mise d'accord sur un bon prix. C'est vraiment un bon bouquin.
Donc c'est un des nombreux titres à lire ces prochains jours au Salon du Livre de la Jeunesse à Montreuil et aussi à vous retrouver, Marie Desplechin, derrière une table de signature, certainement.
Eh ben oui.
Avec grand plaisir, à la rencontre de vos jeunes lecteurs, à qui vous adressez donc ce livre intitulé « Ne change jamais », qui est apparu aux éditions L'École des loisirs. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Les éditions Jean-Claude Lacroix.